Violette Solaire tenait à s'excuser pour ne pas être là ce soir. Bon. Alors, cela dit, nous allons écouter Claire Montgobert et Marc Strauss. Alors, on va faire des... Voilà, d'abord Claire Montgobert qui a donné comme titre... Toujours le même ?
Oui.
Le psychanalyste et le politique. C'est intéressant parce qu'en ce moment, la politique nous occupe beaucoup. De façon un peu désespérée, il faut bien dire. Voilà.
Tu peux redire le titre parce qu'on n'a pas.
Alors, l'athée. Le psychanalyste et le politique. Cette affaire de... Je rappelle que le titre, c'était « Croyance, certitude...
Conviction. »
Et
«
Conviction ».
Et
«
Conviction ».
Ah.
Il n'y a pas de « et ».
Croyance, conviction,
certitude.
Non, croyance, conviction et certitude.
Croyance,
certitude et
conviction.
Croyance, certitude et conviction. Les deux là se trompent. Bon. Donc. Croyance, c'est l'athée. Le psychanalyste, c'est certitude. Le politique, c'est croyance.
Non, c'est conviction.
Conviction. Ah oui, c'est conviction. Conviction. Allez.
Bon, bonsoir. Ouais, je vous remercie hein, pour votre invitation et pour la mise au travail donc, qu'elle a suscité. Puis, ce titre, il s'est un peu agité tout seul. Voilà, donc, puis il a fait ouverture sur des questions justement concernant la position du psychanalyste, donc dans sa pratique d'une part, mais aussi celle de la psychanalyse dans la cité. Voilà, alors je suis donc sur ces trois questions, sur la croyance, je suis partie d'une phrase de Lacan, hein, ça fait point de départ, hein, bon, elle est connue, hein, c'est peut-être l'analyse est-elle capable de faire un athée viable, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contredit pas à tout bout de champ. Voilà, à partir de là, j'essaie d'interroger la possibilité ou pas d'une non-croyance, en fait. Sur la certitude, ben, j'avais deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui peut fonder une certitude ? Et la seconde, ben, sur quelle certitude le psychanalyste peut-il se fonder pour son acte ? Et enfin, je conclurai en interrogeant le passage de la certitude à la conviction à partir de l'acte de Freud et de Lacan. Alors c'est vrai qu'avec l'intitulé de ce séminaire, croyance, certitude et conviction, on a trois termes qui visent des propositions ou des énoncés tenus pour vrais, hein, et donc mettent en jeu la question de la vérité. La difficulté, c'est que dans le langage courant, mais aussi dans les dictionnaires, parce que j'ai pas mal compulsé, ce sont des termes qui se renvoient les uns aux autres. Donc d'où la nécessité d'en préciser la signification, ce que je ferai à chaque fois, hein, pour préciser ce que j'entends par chacun de ces termes. Alors le terme de croyance, s'il convoque d'emblée la dimension de la vérité, convoque aussi celle du doute, hein, dans une gradation, dans une échelle, bon, qui va du simple assentiment de l'esprit à la fois la plus assurée. Hein, la croyance, ça se traduit par toute une série de modalités, allant de l'opinion, l'habitude ou la coutume, en passant par ce qu'on appelle le savoir rationnel, ou la vérité scientifique, jusqu'à la foi, hein, qu'on la nomme foi religieuse, idéologie ou conviction politique. Alors, j'ai intitulé mon premier point « La croyance n'est pas le savoir ». Hein, l'expérience a montré à Freud que l'essentiel n'est pas seulement de savoir, mais de croire ce que l'on sait. Lorsque Freud dévoile la Miss Lucie R., l'inclination refoulée qui est à l'origine de ses symptômes, elle lui répond « Je l'ignorais, ou plutôt je ne voulais pas le savoir. Je voulais le chasser de mon esprit, ne plus jamais y penser, et je crois y avoir réussi cet an dernier. Bon, le texte est de 1885, on est donc au tout début de la psychanalyse, et Freud commente ainsi « Je n'ai jamais disposé d'une autre meilleure description de cet état singulier où le sujet sait tout sans savoir. » Bon, ce que le sujet sait, il ne le croit pas. Bon, c'est une expérience que chacun peut faire dans la cure analytique. Donc ça, c'était mon premier point. Alors, mon deuxième point, la croyance est l'effet de la parole. Pour Lacan, donc le sujet est pris dans les raies, dans les filets du langage, en tant qu'il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Il n'y a rien qui puisse garantir donc une signification qui le concerne. C'est pourquoi toute parole convoque l'autre, le grand autre, comme garant. Bon, je cite Lacan, « Cet autre, où non seulement je peux, mais où je ne peux pas faire autrement que de m'établir chaque fois que quelque chose s'articule et qui est du sujet. » Donc l'autre est invoqué, convoqué par le sujet, comme lieu garant de la bonne foi et de la vérité, à chaque fois qu'il prend la parole, et même si c'est pour mentir, et peut-être même surtout si c'est pour mentir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'elle s'adresse à un semblable, à un petit autre, la parole vise autre chose derrière ce semblable. Donc elle vise le grand autre que le sujet place dans la position absolue de garantir ce qu'il engage par cette parole. Lorsqu'il énonce « tu es mon maître ou tu es ma femme » à l'adresse d'un petit autre, son message lui revient sous une forme inversée, en le situant comme élève, comme époux, et en l'aliénant à ses signifiants. Ce sont des choses qu'on reprend souvent. Alors, ce grand autre qui est institué par la parole, ce n'est pas seulement le symbolique, ce que Lacan appelle le trésor des signifiants. C'est aussi l'autre de la demande et du désir, du « que me veux-tu » qui se transforme, c'est l'inversion du message, qui se transforme pour le sujet en « que me veut-il ?» Donc l'énigme du désir de l'autre qui trouve sa solution donc, dans le fantasme comme réponse à la volonté de jouissance que le sujet attribue à l'autre. Or, et c'est mon troisième point, la croyance est une des conditions de l'analyse. Comme tout dispositif de parole, la cure analytique institue le grand autre. Et la règle fondamentale tient sa valeur de la croyance mise par l'analysant dans cette figure de l'autre qu'est le sujet supposé savoir. Mais si le sujet supposé savoir est là d'entrée, comme effet de la parole, ça ne suffit pas pour s'engager dans l'analyse. Il y faut quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la foi, car s'y ajoute l'amour, c'est-à-dire le transfert comme amour qui s'adresse au savoir. Mais pas sans un partenaire qui refuse de répondre à cette demande d'amour et de savoir, c'est-à-dire un partenaire qui ne se prend pas pour le sujet supposé savoir, et qui offre donc un dispositif de parole où c'est la cause du désir, et non pas le savoir qui est en position d'agent. Voilà. Donc, alors, c'est parce que donc justement la croyance est l'effet de la parole, ce sera mon quatrième point, que l'hypothèse Dieu est incluse dans la parole. Je m'avance petit à petit vers mon histoire de croyance et d'athée. Cet autre que convoque la parole, donc les hommes, les humains, lui ont donné le nom de Dieu. Lacan, c'est dans le séminaire 20, c'est un passage qui est bien connu, je vais quand même le citer. L'autre, le grand autre, donc comme lieu de la vérité, est la seule place, quoique irréductible, que nous pouvons donner au terme de l'être divin, de Dieu pour l'appeler par son nom. Dieu est proprement le lieu où, si vous m'en permettez le jeu, se produit le Dieu, le Dieur, le dire. Pour un rien, le dire, ça fait Dieu. Et là je souligne, aussi longtemps que se dira quelque chose, l'hypothèse Dieu sera là. Il est impossible de dire quoi que ce soit sans aussitôt le faire subsister sous la forme de l'autre, du grand autre. Donc Dieu, comme lieu de la vérité, c'est la fonction à quoi nous attribuons le savoir et le jouir qui nous échappe, fonction qui serait supposée pouvoir répondre de la question du sens, de la jouissance, du sexe, de la mort. Or, le sujet supposé savoir dans l'analyse conjoint le dieu des philosophes et le dieu des prophètes. C'est une distinction que Lacan reprend de Pascal. Alors, le dieu des philosophes, le dieu des philosophes, c'est le garant du savoir dans l'analyse. C'est le savoir qui se déchiffre. Et pour les scientifiques, c'est celui qui garantit les règles. Dieu ne joue pas au dé, disait Einstein, et Descartes fonde son cogito sur un dieu qui ne soit pas trompeur, un dieu qui ne peut pas vouloir que 2 et 2 ne fassent pas 4. Ce dieu des philosophes, c'est Dieu qui rencontre du sens de ce que le monde est intelligible. L'autre face de Dieu, c'est le dieu des prophètes. C'est un dieu de désir, de volonté et de jouissance. C'est le dieu qui avait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils et qui l'avait choisi pour fonder son peuple. Mon cinquième point s'intitule « Tout le monde est religieux, même les athées, et Dieu est inconscient ». Qu'on dise croire ou non en Dieu, on a affaire à cette place de l'autre. Ce qui amène Lacan à dire « Tout le monde est religieux, même les athées ». L'athéisme, c'est la maladie de la croyance en Dieu. Croyance que Dieu n'intervient pas dans le monde. Dieu intervient tout le temps, par exemple sous la forme d'une femme. Voilà, je termine la citation. Donc l'athée est celui qui croit qu'il ne croit pas. Il s'affirme athée tout en maintenant la croyance convoquée par la parole. Et d'ailleurs, Lacan se faisait fort de prouver à tout un chacun qu'il y croyait. C'est une citation que j'ai trouvée. Je mets au défi chacun d'entre vous que je ne lui prouve pas qu'il croit à l'existence de Dieu. Très difficile de ne pas croire à l'existence de Dieu. C'est ce qui amène Lacan à énoncer que la véritable formule de l'athéisme n'est pas que Dieu est mort, c'est que Dieu est inconscient. C'est-à-dire que ce qui est appelé Dieu a ses racines dans la structure déterminée par le langage et l'inconscient. Et à cette place peuvent venir diverses figures. Bon, le grand autre, le sujet supposé savoir, Dieu, le père, un chef, un idéal, une femme. On est loin de Freud qui pensait que les avancées du savoir scientifique permettraient à l'humanité de se passer du recours à Dieu. L'athéisme freudien est celui des Lumières et de la croyance dans le progrès de l'humanité. Lacan est bien plus pessimiste. Alors, et c'est mon sixième point, peut-on faire l'hypothèse d'un athéisme analytique ? Pourtant, donc, que l'analyse puisse produire un athée, c'est la conjecture de Lacan. C'est la phrase dont je suis partie. Donc, l'analyse est-elle capable de faire un athée viable ? Quelqu'un qui ne se contredise pas à tout bout de champ, mais Lacan ne dit rien sur ce ne pas se contredire à tout bout de champ. Alors, à la fin de l'analyse, ce qui met fin à la quête de la vérité, à la croyance dans le sujet supposé savoir, c'est la rencontre avec ce à quoi se réduit l'être, et avec les effets de la langue, donc savoir sans sujet, qui se manifeste dans le symptôme, le fantasme et la répétition. Cette expérience d'un impossible à dire et dont il y a à prendre acte s'accompagne de la chute du sujet supposé savoir. C'est cesser de croire qu'il existe une vérité ultime, un savoir qui donnerait le sens du symptôme et qui répondrait au manque. C'est ce que Lacan formule avec « il n'y a pas d'autre de l'autre ». Rien ne vient garantir l'autre comme lieu de la vérité, la place est vide et la parole est sans garantie. C'est un athéisme par rapport au dieu des philosophes. Donc, cet athéisme-là, donc, c'est un athéisme par rapport au dieu des philosophes, ce grand autre donc supposé être garant du savoir et de la vérité. Mais, et c'est là la question, qu'en est-il de l'autre face de Dieu ? Le Dieu des prophètes, donc Dieu de désir et de volonté de jouissance. Alors, Colette Solaire, dans son intervention aux journées psychanalyse et religion de 2009, pose que, je la cite, « La psychanalyse, par effet de structure, met en question sujet supposé savoir. » C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, le Dieu des philosophes. « Mais la séduction du Dieu qui veut, c'est-à-dire du Dieu des prophètes, reste à la merci des options singulières. » Alors, il me semble intéressant de rapprocher ça, Sacadie Colessère, de ce que dit Lacan à la fin du séminaire 11. Donc, je le cite là, concernant l'issue de l'analyse, après le repérage du sujet par rapport au petit a, l'expérience fondamentale devient la pulsion.
C'est un fantasme.
Du fantasme, qu'est-ce que j'ai dit ?
L'expérience fondamentale.
Enfin, l'expérience du fantasme fondamental devient la pulsion. Que devient alors celui qui a passé l'expérience de ce rapport opaque à l'origine, à la pulsion ? Cela est au-delà de l'analyse et n'a jamais été abordé. Voilà, je propose de mettre en discussion l'hypothèse que cette expérience de la fin de l'analyse pourrait faire un sujet un petit peu plus averti de la fascination du sacrifice et de la jouissance qui s'y attache. Un sujet qui n'y chercherait plus le témoignage de la présence du désir de cet autre que Lacan appelle le Dieu obscur. À partir de là, pour l'athée viable, ne pas se contredire à tout bout de champ, ce serait d'une part ne pas recouvrir la place vide avec du sens, c'est-à-dire ne pas se prendre pour le sujet supposé savoir, et d'autre part, dévaloriser la jouissance en visant le réel par le bien-dire. Donc, mon point suivant s'intitule « Si l'analyse peut produire un athée viable, sur quoi l'analyste peut-il établir sa pratique ?» Freud considérait que le but de l'analyse didactique était accompli si elle apportait notamment au futur analyste la ferme conviction de l'existence de l'inconscient. Si on assimile cette ferme conviction à une certitude, ce que je vais faire, la question qui s'ensuit est la suivante. Sur quoi se fonde cette certitude de l'analyste ?
Que l'inconscient existe.
Oui. Hein, c'est-à-dire la ferme conviction de l'existence de l'inconscient. C'est ça.
C'est ça.
D'accord. Ça, c'est... C'est dans résultat, l'analyse avec fin et l'analyse sans fin.
On le dit plusieurs fois.
Ouais. Voilà. Mais il y a une question préalable, donc. C'est qu'est-ce qui permet de fonder une certitude ? Alors, avant d'aller plus loin, je précise ce que j'entends par certitude. C'est une croyance qui exclut le doute. On a un modèle, il y a un modèle implicite de la certitude qui nous est donné par les disciplines scientifiques. La preuve, c'est qu'il suffit en général d'invoquer la scientificité d'une thèse pour qu'elle soit considérée comme légitime.
Avec Trump, c'est plus vrai.
Oui, moi je m'étais référée au dernier débat entre, parce que ça m'avait un peu attiré, entre les économistes orthodoxes, donc qui faisaient valoir la scientificité de leur thèse, et les économistes hétérodoxes qui disaient pas du tout, ça vient de tout à fait autre chose. Voilà. Ça avait fait quelques articles. Alors. Que peuvent nous enseigner les mathématiques et les sciences expérimentales sur ce qui peut fonder une certitude ? Puisque c'est implicitement avant Trump, notre modèle donc de la certitude. Alors, c'est vrai que comme il repose sur des démonstrations rigoureuses, les mathématiques apparaissent comme un domaine privilégié pour produire des énoncés vrais, c'est-à-dire relevant de la certitude. Et d'ailleurs, avec sa méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Descartes avait pour objectif d'étendre la certitude mathématique à l'ensemble du savoir. Or, les développements de la logique et de l'informatique ont mis à mal l'idée d'une certitude absolue en mathématiques. C'est Gödel qui démontre en 1930 que... la certitude mathématique qu'on obtient en écrivant une preuve, même formelle, est atténuée par l'impossibilité dans laquelle nous trouvons d'être certains que le système que nous utilisons est non contradictoire. Parce qu'en effet, si le système est contradictoire, la démonstration n'a plus aucun sens. Alors, en pratique, les mathématiciens se placent dans un système formel donné, ils mènent leur travail, précisent le cadre, et, sauf exception, ne se préoccupe pas de l'incomplétude. Il n'empêche que la démonstration de Gödel est toujours valable. Alors, dans les sciences expérimentales, le problème, c'est celui du passage des énoncés singuliers, hein, c'est-à-dire des résultats d'observation ou d'expérience, donc passage d'énoncés singuliers à des énoncés universels, c'est-à-dire à des lois. Le problème, c'est qu'un nombre aussi grand qu'il soit de cas conformes à une loi ne constitue pas une preuve que la loi s'applique à l'avenir. Hein, l'apport de Karl Popper au débat sur la validité des théories scientifiques a été de faire remarquer qu'on peut prouver qu'une théorie est fausse, c'est ce qu'on appelle falsifier une théorie, mais qu'on ne peut jamais la confirmer expérimentalement, du moins de façon absolue. Hein, c'est l'histoire des signes blancs. Hein, on peut observer autant de signes blancs qu'on veut. Hein, ça n'établira pas que tous les signes sont blancs. Il suffit d'un seul signe noir, ou non blanc même, hein, pour réfuter, pour falsifier la théorie selon laquelle les signes sont tous blancs. Donc, ce qui m'amène donc à mon point suivant, hein, il n'y a pas de certitude qui vaille pour tous, il n'y a que des certitudes singulières. Hein, puisque ni les mathématiques, ni la science ne peuvent garantir la vérité. La vérité n'est que partielle, limitée à un système formel dans le cas des mathématiques, ou bien provisoire, dans l'attente de sa falsification dans les sciences expérimentales. Reste ce qu'on appelle la certitude morale. Enfin, c'est saint Thomas, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, le domaine du contingent, qui comprend en particulier les actions humaines, relève de la certitude morale, qui est fondée sur l'assentiment accordé à la plus grande ou à la très grande probabilité. Alors là, c'est dans la Somme, hein, il dit donc, dans les actes humains sur lesquels les tribunaux se prononcent et qui ne sont révélés que par des témoignages, il ne peut y avoir de certitude démonstrative, car ces actes portent sur des choses contingentes et variables. Pour cette raison, une certitude probable suffit, laquelle atteint la vérité dans la plupart des cas, même si dans quelques-uns, elle s'en écarte. Avec Lacan, la psychanalyse apporte un éclairage différent sur cette question. La certitude va de pair avec l'inconnu de la signification, avec ce qui fait énigme. Dans l'angoisse, la certitude est liée à l'approche de l'objet petit a. Et Lacan précise que la seule certitude qui soit fondée, c'est celle de l'angoisse. Hein, l'angoisse en tant que tout objet lui échappe. Concernant la psychose, dans la question préliminaire, Lacan définit la certitude comme signification de signification. Hein, je le cite, il s'agit en fait d'un effet de signifiant, pour autant que son degré de certitude prend un poids proportionnel au vide énigmatique qui se présente à la place de la signification. Hein, c'est l'exemple, hein, de l'intuition délirante qu'il cite d'ailleurs dans le séminaire à propos de la voiture rouge rencontrée dans la rue, qui prend une valeur de signifiant et fait signe que ça veut dire quelque chose concernant le sujet, même si le sujet justement ne sait pas ce que ça veut dire et que ça fait énigme. Donc la certitude a donc rapport avec l'énigme. C'est par exemple le cas de Descartes, qui pose la question de l'existence, hein, ce qu'on appelle la question essentialiste, et qui aboutit à la certitude du cogito, et dont Lacan dit que, à propos de Descartes, hein, cette certitude, donc, à la chercher ainsi dans son véritable fondement, s'avère ce qu'elle est. C'est un déplacement, une certitude seconde, et le déplacement dont il s'agit, c'est la certitude de l'angoisse. Dans le même ordre, la certitude de l'acte, qu'il soit analytique, politique, artistique ou autre, va de pair avec l'inconnu de sa signification. L'acte, tel que le définit Lacan dans son séminaire, a toujours une valeur signifiante et prend sa valeur dans l'après-coup. Là est la certitude de l'acte. C'est une certitude singulière, propre au sujet. C'est le « on le sait soi » de la préface à l'édition anglaise du séminaire 11. Point suivant, c'est la certitude issue de son acte qui soutient la démarche de Freud. Dans le séminaire 11, Lacan revient plusieurs fois sur la certitude de Freud. La certitude de Freud, c'est qu'il y a là une pensée inconsciente qui se manifeste et que ça pense. Je cite Lacan, « Freud place sa certitude dans la seule constellation des signifiants tels qu'ils résultent du récit, du commentaire, de l'association, peu importe la rétractation. » Freud assure sa certitude à partir de sa découverte des manifestations de l'inconscient. Mais sa certitude, il la tient de son désir. Je cite à nouveau Lacan. Freud s'avance, nous dit Lacan, soutenu par un certain rapport à son désir et par ce qui est son acte, à savoir la constitution de la psychanalyse, et que par là se fait le progrès où il nous change le monde. Alors j'ai intitulé mon point suivant « De la certitude à la conviction ». Si c'est sa certitude qui a permis à Freud de s'avancer, il a fallu qu'il lutte pour faire reconnaître ses découvertes, d'abord à Vienne, puis bien au-delà. C'est sa certitude qui l'a soutenu, tant dans son élaboration théorique que pour que la psychanalyse se répande dans le monde. De même, Lacan a dû lutter pour faire valoir les implications et de son retour à Freud et des élaborations qui ont suivi. Ceci dans la pratique analytique et dans la formation des analystes. Et c'est de la politique de la psychanalyse qu'il est donc question. Si la certitude est plutôt de l'ordre de l'intime, la conviction, elle se manifeste. Elle doit sans doute cela à son sens premier, qui était de prouver la culpabilité de quelqu'un et dont nous gardons encore l'expression « pièce à conviction ». Tant Freud que Lacan ne se sont pas avancés seuls. Leur conviction s'est manifestée, notamment dans leur enseignement, ce qui a fait que d'autres les ont suivis. Cela ne s'est pas fait sans difficulté et sans lutte. L'histoire de la psychanalyse en témoigne, hein, y compris donc contre certains de ceux qui les suivaient. Voilà. Et je terminerai par mon dernier point, donc j'ai intitulé « La question de la politique ». La question que je pose, c'est celle des manifestations contemporaines de la conviction analytique, c'est-à-dire de la conviction comme manifestation de la certitude issue de l'acte. Alors posons d'emblée la question de la conviction dans les cures. Il ne s'agit pas pour l'analyste de convaincre. Là n'est pas sa place. Il n'est ni un maître ni un rééducateur. Pour l'analyste, il me semble que la question de la conviction se pose en dehors des cures, et plus particulièrement dans la façon dont il répond de son action dans la cité, face au social de son époque. C'est une réponse politique à produire pour chacun, du côté de ce travailleur décidé que Lacan appelait à le suivre dans l'acte de fondation de l'école freudienne de Paris. La place de la psychanalyse a beaucoup changé depuis l'époque de Lacan, et de la réponse de l'analyste dépend qu'il y ait des chances que l'analyste continue à faire prime sur le marché. Bon, ce qui ouvre à de nouvelles questions sur la place de la psychanalyse aujourd'hui et sur les réponses à produire par les psychanalystes. Voilà, je vous remercie.